Alors je vous invite, chers amis, à prier. Nous avons lu le psaume 103 avant de lire ce texte dans Luc. Et donc, moi, je vais prier à la lumière de ce psaume avant de voir ensemble Luc chapitre 6. La bonté de l'Éternel dure d'éternité en éternité pour ceux qui le craignent. Et sa justice demeure pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements pour les mettre en pratique. Oui, Seigneur, c'est ça ce qu'on te demande encore ce matin, que nous soyons un peuple qui te craint, que nous soyons un peuple qui se souvient de tes commandements afin de les mettre en pratique. Et donc, donne-nous d'être un peuple à l'œuvre, animé par le même amour que toi tu as pour nous. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Bon, les amis, nous commençons ce texte de ce matin avec la fin. Cette histoire tellement connue qui est placée à la fin de ce que Luc appelle le serment sur le plateau, sur la plaine, au verset 17, juste avant les versets que nous avons sous les yeux. Et donc, cette histoire, tout à la fin, le dernier paragraphe, donne un résumé de la portée de ce que Jésus vient de dire dans l'ensemble de ce serment. Et que dit cette histoire? Il y a deux moyens de construire une maison. Premier moyen, on creuse bien les fondations sur lesquelles nous construisons, jusqu'à ce que les fondations touchent un rocher solide. Elle est bien construite. Deuxième possibilité, nous construisons ici sur la terre, verset 49, sans fondation. Un peu comme si nous faisons un abri de jardin, où on n'a pas besoin de faire grand-chose. C'est relativement simple, même si nous l'avons procuré à IKEA. C'est agréable une fois fait, parce que ça n'a pas pris énormément de temps. Mais le test n'est pas lorsque tout va bien, lorsqu'il y a du soleil, lorsqu'il fait chaud. Mais le test, c'est lorsque la difficulté survient. Ici, dans cette histoire, la difficulté, c'est l'inondation qui monte. Et alors, un torrent qui se jette contre la maison. Dans le premier cas, rien n'arrive à la maison, car la maison tient bon. Dans l'autre cas, qu'est-ce qui arrive? La maison s'écroule. Comment est-ce que l'histoire termine? La ruine de cette maison a été grande. Alors, petite illustration du pasteur lorsqu'il avait 14 ans au Pays de Galles, dans un camping avec d'autres personnes de mon école. Je n'étais pas expérimenté, et j'étais sous tente avec aussi quelqu'un pas du tout expérimenté. Tous les deux, on avait le désir d'être à côté du petit ruisseau pour ne pas devoir nous déplacer très loin pour se laver le lendemain. D'autres, plus expérimentés, bien entendu, plantaient leur tente à une bonne distance. Hélas, pendant la nuit, il faisait froid, je m'en souviens toujours, il pleuvait des cordes, et à un point où notre tente, et du coup nous deux dans la tente, se trouvaient au milieu du ruisseau. Même un fleuve, je dirais. Il fallait, dans le noir total, vers 3 heures du matin, sous la pluie, tout bouger. Et tout ce qu'on avait était quasiment détruit. À 14 ans, on n'avait pas grand-chose, donc tant mieux. Bien évidemment, Jésus termine son discours avec cette histoire, car elle sert comme une illustration pour nous par rapport à lui. Par rapport à ce que lui, Jésus, nous dit. Car le contexte, c'est le verset 46, vous avez cela. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Verset 47, il dit explicitement que l'histoire des deux maisons a pour but de montrer à qui ressemble tout homme qui vient à lui, entend ses paroles et les met en pratique. Pendant un temps, vous voyez, ça marche si vous construisez une maison sur la terre. Rappelons-nous le contexte encore plus haut qu'on n'a pas ici sous les yeux, qu'on a vu la semaine dernière. Verset 24, Jésus disait « Malheur à vous, riches, car vous avez votre consolation. Malheur à vous qui êtes comblés, car vous aurez faim. » Vous voyez là, dans l'immédiat, de telles personnes, ils vont bien. Être riche, c'est chouette. Ça ouvre des portes, ça permet plus de confort, plus de sécurité. Être comblé maintenant, c'est agréable, bien entendu. Mais combien un tel regard de la vie est limité? Car aller bien maintenant, dans l'immédiat, n'est pas le souci majeur de Jésus-Christ. Car lors du jour du jugement, nos richesses seront loin derrière nous. Notre rassasiement dans les choses de ce monde serait bel et bien terminé. Malheur à vous, dit Jésus. Car ça y est, d'une certaine manière, dès maintenant, lorsque le jugement tombe, comme pour la maison, tout s'écroule. Vous aurez faim. Faim du monde que Jésus, dans son ministère, annonce un monde sans maladie, il guérit les malades. Un monde sans mort, il ressuscite même les morts. Un monde sans malédiction qui vient de la chute. Alors comment participer à ce monde-là et éviter ce malheur qu'il prononce au début donc de ce sermon? Entendre ce que Jésus dit dans le sermon et mettre ce qu'il dit en pratique. D'où vient donc l'importance de bien peser l'enseignement que Jésus donne dans notre partie de ce texte, qui tourne autour du comportement qui rend les disciples de Jésus distinctifs, encore aujourd'hui, chers amis. Dans notre texte, il y a plusieurs dictons de Jésus, les plus connus, dictons qui ont marqué profondément la culture occidentale, la façon de penser de toute personne ici présente, que nous nous disons chrétiens, croyants ou pas. Surtout ici, lorsque nous lisons « Aimez vos ennemis » et « Ne jugez pas ou vous serez jugés ». Car certains auront tendance à entendre cela, à lire ce que nous avons lu, et dire que Jésus ici, il parle d'un idéal, quelque chose à viser, oui, dans l'absolu, mais qu'en réalité, nous sommes tous loin de vouloir ou de pouvoir vivre comme il le dit. Mais je ne pense pas qu'une telle réaction est juste, car vivre ainsi fait preuve d'une appartenance à Jésus-Christ, d'être imprégné par son enseignement. Cela ne signifie la perfection, heureusement, comme si nous prétendons tous à pratiquer la règle d'or parfaitement chaque fois que nous agissons envers quelqu'un d'autre. Mais toutefois, cela signifie une façon de vivre qui caractérise la personne qui entend les paroles de Jésus et les met en pratique. Si quelqu'un fait preuve de l'amour envers ses ennemis, quelqu'un fait preuve de ne pas juger les autres, alors cela fait distinction entre lui et la personne qui ne connaît pas Dieu. C'est ça ce que le texte nous dit. Jésus nous le dit, verset 32, trois fois de suite. 32, « Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance en avez-vous? En effet, les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. » Vous ne voyez pas de distinction alors. Verset 33, « Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quelle estime en avez-vous? En effet, les pécheurs aussi agissent de même. » Pas de distinction alors. Verset 34, « Et si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir en retour, quel gré en vous en sait-on? En effet, les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs afin de recevoir l'équivalent. » Donc Jésus, vous voyez, ne nie pas qu'il y a de l'amour qui existe dans le monde, en dehors de Dieu, en dehors de Jésus-Christ. Comme dit le dicton qu'on entend de temps à autre, les loups ne se mangent pas entre eux. On reconnaît que cela est le cas. Mais Jésus dit que ceux qui réclament une connaissance de Dieu doivent faire preuve d'un amour plus profond que cela. Lorsqu'il dit dans notre texte à la fin du verset 42, « Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras à ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère », il s'attend à ce que ceux qui le suivent ne soient pas hypocrites, qu'ils agissent différemment. Donc nous avons affaire à une ligne de conduite nécessaire pour les croyants en Jésus-Christ. Et donc si vous êtes en visite parmi nous, ben, je vous invite à bien écouter afin d'être lucide vous-même sur ce que la foi en Jésus-Christ demande de vous si vous voulez progresser dans une foi en Jésus-Christ. Mais si vous vous dites « croyant en Jésus-Christ » déjà ce matin, ben je vous dis également d'écouter bien. Car en fonction de ce que Jésus nous dit ce matin, nous pouvons nous poser la question, faisons-nous preuve de ces mêmes traits de caractère qu'il met en avant dans les deux domaines précis dans ce texte qui soulève l'amour de nos ennemis et notre capacité de ne pas passer jugement sur les autres. Donc je vous renvoie maintenant ici vers le schéma que nous avons sous les yeux et nous allons voir ces deux domaines l'un après l'autre. Donc d'abord, à qui ressemblez-vous? Aimez comme le Père nous aime. À qui vous ressemblez-vous? Aimez comme le Père nous aime. Le sujet est clair dès le verset 27. Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis. Verset 35, à la fin de cette section, mais aimez vos ennemis. Concrètement, qu'est-ce que ça signifie? Verset 27, faites du bien à ceux qui vous détestent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Ensuite, il poursuit avec trois exemples de cette façon d'aimer. Premièrement, verset 29, si quelqu'un te frappe sur un manteau, ne l'empêche pas d'adresser une demande. Et ne répète pas que juste avant, Jésus a enseigné ses disciples au sujet de la persécution à laquelle ils seront exposés. Donc les exemples ici qu'il donne servent à aider une telle personne persécutée à ne pas chercher à se venger de façon personnelle. Il n'y a pas ici un plaidoyer pour des instances d'autorité d'un pays ou d'une région ou d'une commune de ne pas arrêter et intervenir pour arrêter ou même condamner le mal. Quelqu'un à l'époque qui frappait la joue de quelqu'un d'autre le faisait dans un contexte d'insulte. Cela faisait signe d'un rejet public envers quelqu'un. Donc ici, Jésus ne dit rien à propos de l'abus d'une femme par rapport à son mari, qu'une femme doit laisser continuer le mari le frapper. Bien sûr que non. Et si quelqu'un prend ton manteau, au lieu de dire « ça suffit, alors je rentre chez moi, quand je n'ai plus envie de devoir être exposé au risque d'être maltraité », non, Jésus dit « tu continues, même si le danger d'être maltraité reste encore là ». Le contexte, donc, c'est un contexte de persécution. Le troisième exemple, donne à toute personne qui t'adresse une demande et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare, ne signifie pas, hein, bien entendu, le partage capricieux et arbitraire des biens avec des personnes paresseuses. Non, il met plutôt l'accent sur l'esprit dans lequel les disciples doivent vivre. Pas d'esprit parmi ses disciples, vengeur, exigeant, avide. Verset 35, faites du bien et prêtez sans rien espérer. À savoir donc, sans retenir un esprit de possession sur ce que tu as prêté à quelqu'un d'autre. Dès que c'est prêté, ne pas se servir de ta générosité pour en vouloir à la personne qui a pu bénéficier de votre générosité. Jésus s'adresse donc à ceux qui sont maltraités. Il ne s'adresse pas ici à celui qui maltraite l'autre, la personne qui frappe sur la joue, la personne qui prend le manteau, qui reçoit un don ou un prêt de ta part. à de telles personnes, il y aura d'autres choses à dire ailleurs dans le Nouveau Testament. Mais ici, il s'adresse à nous lorsque nous sommes maltraités. Il nous dit, il te dit donc, toi, fais du bien autour de toi, oui, même, ou même surtout, lorsque cela n'est pas mérité de la part de celui auprès de qui tu exerces le bien. Et donc, la règle d'or, au verset 31, donne le résumé de ce qui est en jeu. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le vous aussi de même pour eux. Ailleurs, dans l'Antiquité, ce principe est généralement exprimé dans le négatif. Ne faites pas aux autres ce que vous ne voulez pas qu'ils fassent à vous. Mais Jésus l'exprime de façon positive. Faites aux autres ce que vous voulez que les autres fassent pour vous. La motivation n'est pas afin de bénéficier en retour vous-même, mais qu'on se donne de nous-mêmes de manière sacrificielle pour le bien des autres. Aimez vos ennemis, vous voyez, pas simplement supporter vos ennemis, ni passivement ne pas rendre le mal à vos ennemis, mais cela nous engage positivement. Aimez nos ennemis. Alors maintenant, une illustration que Tony Arnaud m'avait partagée lorsqu'on parlait de ce texte cette semaine dans notre équipe. À propos d'une famille chrétienne française, les Pérez, famille chrétienne de 6 générations, à l'origine d'une œuvre du Seigneur qui continue jusqu'à aujourd'hui dans le sud de la France, surtout ou notamment à travers l'association Matania qui œuvre auprès des enfants. Peut-être vous avez entendu parler de cette œuvre. Alors, leur histoire commence en Algérie avec un missionnaire, un monsieur Rugojo, je ne sais pas si je dis bien son nom, qui lui se rend auprès de la famille Pérez, où il y a 4 frères adultes. En arrivant chez eux, il est accueilli brutalement par ces 4 frères, qui ne veulent rien savoir de ce missionnaire, de ce qu'il proclame, à un point où ils prennent M. Rugojo pour cible et le lapident à coups de pierre. Témoin de la scène, le père de ces 4 garçons ne réagit pas, lui, par la colère, mais il dit ceci à ses fils. Si cet homme que vous avez caillassé, si cet homme a le courage de revenir, alors écoutez-le, car cela prouvera qu'il est un véritable messager de la vérité. Un mois plus tard, malgré la violence subie, ce monsieur Rugojo réapparaît à l'horizon. Fidèle à sa mission, il revient vers ceux qui l'avaient blessé. Frappé par donc cette persévérance et se souvenant des paroles de leur père, les frères acceptent enfin d'écouter son message. L'évangile de Jésus-Christ est proclamé. Et ce jour-là, les 4 frères se convertissent. Aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous détestent. Alors, si vous permettez, j'aimerais prendre un petit moment maintenant d'appliquer ceci à nous, tous présents ici, dans ce bâtiment. Que nous soyons dès lundi au travail, que nous soyons en famille, ou que nous soyons ici à l'église. Car des ennemis, il peut y en avoir dans les 3 domaines. Non seulement un ennemi avec E majuscule, si vous voulez, mais également des ennemis avec E minuscule. Comment est-ce que nous nous comportons pour aimer nos ennemis? Donc au travail. Au travail, je pense que nous sommes conscients que ça peut arriver qu'un responsable nous maltraite, nous accuse injustement de ne pas avoir bien relu un document ou qui favorise injustement quelqu'un qui travaille moins bien que toi. Ou cela arrive qu'un collègue qui chaque fois que toi tu demandes de l'aide, a toujours une raison qu'il trouve pour ne pas vous aider. À un point que vous vous doutez de la légitimité de ces excuses. Et ensuite, ce responsable ou ce collègue vous demande de l'aide pour un projet ponctuel ou une tâche supplémentaire. Alors combien, dans ce contexte, c'est facile de vouloir se venger? Oui, poliment, certes, mais néanmoins véritablement. De ne pas vouloir bien aider à votre tour la personne qui le demande. De ne pas chercher à faire le maximum pour aider une telle personne, mais de faire le minimum plutôt, de peur que vous contribuiez sinon à la réussite de son projet. Et ça, dans votre esprit, ce ne serait pas juste. Ou c'est facile de chercher des petits moyens d'abaisser l'autre personne, en parlant derrière son dos à d'autres